Notre méditation aujourd'hui est tirée de la parabole du riche et de Lazare. La voici telle que Jésus l'a dite et telle que Luc nous la présente et nous la préserve dans le 16e chapitre de son évangile. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin fin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » On n'a pas tort de dire qu'il faudrait être profondément endormi pour ne pas être frappé par ce discours. Le ton en est si direct, si poignant, que certains se sont même demandé s'il ne s'agirait pas ici d'un témoignage plutôt que d'une parabole. Peu nous importe vraiment. Il nous suffit d'accueillir ce texte comme un enseignement venu du Maître, comme un message qui nous met violemment face à face avec notre destinée. Essayons d'en tirer profit. Il y a plusieurs points qui retiennent notre attention. Les rôles sont donc renversés. Le riche se trouve dans un lieu de tourment, non pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il avait fait mauvais usage de ses richesses. Il avait vécu comme un jouisseur monstrueusement égoïste, complètement indifférent à la misère de ses semblables, dont il devait être conscient puisqu'elle venait se coucher jusque devant sa porte. Il lève les yeux et aperçoit Lazare, merveilleusement consolé, auprès d'Abraham. La mort les avait emportés tous les deux, misérables funérailles pour l'un, fastueuses pour l'autre, mais de l'autre côté, invisible pour les vivants, l'existence continue avec son renversement des valeurs. Nous pouvons faire ici quelques constatations. Les Juifs désignaient généralement l'outre-tombe comme le séjour des morts. Là, les morts étaient déjà séparés par une sorte de jugement préparatoire. Il y avait le séjour des justes en présence des patriarches, qui peut être le paradis, et le séjour des méchants déjà désigné sous le nom de Géhenne. C'est dans cette dernière région que Jésus entrevoit le mauvais riche. En faisant ce récit, Jésus n'essaie pas d'apporter quelque éclaircissement sur ce point théologique. Ce n'est pas l'objet de son discours. Et si l'imagination des Juifs, excitée par leur curiosité, a quelque peu imagé cette existence d'outre-tombe, dans les grandes lignes, la vérité n'en avait pas souffert. Quelle est ou quelles sont ces vérités en ce qui concerne cette question? Tout d'abord, qu'il y a, après la mort, une vie consciente et personnelle. Si cela n'était pas, le Christ aurait-il encouragé ses auditeurs à persévérer dans l'erreur, lui qui est la vérité, et ne cesse de corriger les fausses notions religieuses de son peuple? Deuxièmement, que l'identité de chacun est préservée. Tout dans ce récit souligne ce fait. C'est pourquoi Abraham peut dire au mauvais riche, « Mon enfant, souviens-toi ». Troisièmement, qu'après la mort, la justice de Dieu s'exerce en ce que le bien est définitivement séparé du mal, chacun recevant déjà sa part, en attendant la grande rétribution du jour du jugement universel. Il n'est pas de région intermédiaire. Sans insister outre mesure sur le grand abîme qui sépare ces deux régions, il nous est toutefois permis de comprendre qu'il n'est pas de transfert possible d'un lieu à un autre. Nous avons déjà dit que dans ce récit, Jésus avertit les égoïstes de ce monde, ceux qui ont pour Dieu leur ventre et ne pensent qu'aux choses de la terre, indifférents à la misère qui les entoure. Ce riche a cédé à la tentation de la richesse. On sait combien elle est forte. De par les nombreuses mises en garde que contiennent l'Évangile et les Épîtres à cet égard. Ceux qui veulent s'enrichir, dit l'apôtre Paul, tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il dit encore, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, comme on dirait, ne vous livrez pas à l'ennemi, car Dieu a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » À cela, nous dirons peut-être, « Je ne suis pas riche. » Mais la richesse est toute relative. Vous avez sans doute entendu parler de cette petite fille de bonne famille à qui la maîtresse a demandé de préparer une rédaction concernant une famille pauvre. Voici le premier paragraphe de son devoir. Il était une fois une famille pauvre. Le papa était pauvre, la maman était pauvre, la cuisinière était pauvre, le chauffeur était pauvre, le jardinier était pauvre, la bonne était pauvre, tout le monde était pauvre dans cette maison. Cela vous fait sourire, mais nous avons peut-être de la richesse et de la pauvreté une notion presque aussi faussée que cette petite fille. Si vous pouvez voir venir, comme on dit, jusqu'à la fin de cette semaine, vous êtes certainement plus riche que celui qui ne sait pas encore s'il mangera ce soir. D'ailleurs, qui nous dit que seul le riche peut se livrer à l'amour de l'argent? N'y a-t-il que le bien nanti pour adorer le dieu argent? Le pauvre est-il à l'abri de l'avarice? Est-il incapable d'aspirer à devenir riche et de faire de cette pensée-là la seule poursuite de sa vie? Souvenez-vous de la parabole du semeur. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Perdons l'habitude de dévier la parole de l'Écriture en direction des autres. Laissons-la pénétrer profondément en nous pour qu'elle nous juge, nous purifie et nous sauve. Considérons à présent la dernière partie du discours. Le riche est persuadé que si l'un des morts, Lazare par exemple, pouvait ressusciter et se présenter à ses cinq frères, il se convertirait. Quelle fausse espérance, quelle illusion. Ils ont les saintes écritures, la parole de Dieu. S'ils ne l'écoutent pas, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Le miracle, l'extraordinaire, la preuve, en quelque sorte, a toujours été le refuge de l'incroyant, sa raison de ne pas croire. Puisque l'extraordinaire ne se produit pas, je n'ai aucune preuve de la réalité de l'invisible, donc je ne crois pas. Ce genre d'attitude est comme une invincible forteresse, obstinément fermée par la puissance de la volonté. Ce n'est pas la révélation d'un miracle qui pourrait la vaincre. Les Juifs ont plusieurs fois demandé à Jésus de leur produire un miracle, un signe venant du ciel, ce qui avait le don de l'indigner profondément. Ils n'avaient aucune envie de croire en lui. Ils ne voulaient que repaître leurs yeux d'un spectacle gratuit. Souvenez-vous aussi de la résurrection de Lazare. Elle suscita une vive émotion dans toute la région. Mais ceux qui ne voulaient pas croire cherchaient à faire mourir Lazare, celui que Jésus venait de ressusciter. Ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Ceux qui demeurent absolument indifférents au message de la Bible ne doivent pas se leurrer en s'imaginant qu'un miracle les changerait. Nombreux sont ceux qui appartiennent à cette catégorie. Dans le fond, ils sont satisfaits de l'état dans lequel ils sont. Ils préfèrent ne pas être dérangés. Il leur arrive d'être confrontés avec la réalité de la mort, soit sur un lit d'hôpital, soit en assistant aux funérailles d'un être aimé. Mais sitôt sortis de là, ils ont au fait d'étouffer cette voix qui vient de s'imposer à leur conscience. Chers amis, qu'avons-nous besoin d'un événement surnaturel? N'avons-nous pas assez d'éléments susceptibles de nous convaincre? N'avons-nous pas dans la création les preuves éclatantes de la réalité de la puissance et de l'amour de Dieu? Ne sommes-nous pas déjà convaincus de l'incertitude et de la précarité de notre vie? Notre conscience ne nous parle-t-elle pas de pureté, de justice et de droiture? N'avons-nous pas le témoignage de tous ceux qui nous ont précédés dans l'aventure de la vie, cette nuée de témoins dont parle la Bible et qui nous incite à nous, à les rejoindre dans leur rang? Quelle voix attendons-nous encore? Toutes celles que nous venons d'évoquer nous disent « Viens, crois, aie confiance ». Ce sont les voies du bien. Combien de temps encore nous laisserons-nous tromper par ces voies de malédiction qui murmurent « Attends, ne t'engage pas, regarde autour de toi tous ces gens intelligents qui ne prêtent aucune attention à toutes ces balivernes ». Mes amis, croire signifie avoir confiance. Nous n'avons pas tout vu, mais nous en savons assez et nous avons assez de témoignages dans la parole de Dieu et dans l'expérience de notre propre vie pour avoir confiance que tout cela est vrai, que le monde serait en fait une absurdité si tout cela n'était pas. Et si nous nous sentons faiblir ou mal assurés dans notre foi, souvenons-nous que les apôtres eux-mêmes, au contact du Maître, ont connu ces mêmes défaillances et que nous pouvons prier comme eux tous les jours de notre vie. Seigneur, augmente-nous la foi.